historique. Tout le monde nous dit, bon, c'est quand même étonnant, je vais me fâcher quand j'y pense, n'est-ce pas ? Il y a eu cette espèce d'énorme événement qui est l'effondrement de l'URSS et du communisme. Est-ce que vous pouvez me dîner une seule personne parmi les politiciens, pour ne pas dire les politicards de gauche qui existent actuellement, qui a vraiment réfléchi sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et a, comme on dit bêtement, tiré des leçons. Alors que, évidemment, quelque chose comme ça appelle une évolution de ce type, à la fois d'abord dans sa première phase, l'accession à la monstruosité, si je peux dire, du totalitarisme, le goulag, etc., etc. Bon. Et puis, dans l'effondrement, méritait une réflexion très approfondie et quelque chose comme conclusion sur ce qu'un mouvement qui veut changer la société peut faire, doit faire, ne doit pas faire, ne peut pas faire. Zéro, n'est-ce pas ? Nous sommes d'accord. Bon, alors, donc, comment voulez-vous ? C'est-à-dire, ce qu'on appelle le peuple, les masses, etc., etc., tire les conclusions qu'il peut tirer, mais il n'est pas vraiment éclairé. Vous me parliez tout à l'heure du rôle des intellectuels. Bon. Qu'est-ce qu'ils font, ces intellectuels ? Bon, alors, la droite, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant depuis Reagan, Thatcher et puis les socialistes français ? Ils ont ressorti le libéralisme pur et dur du début du 19e siècle, qu'on avait combattu pendant 150 ans, qui aurait conduit la société à la catastrophe, parce que finalement le capitalisme, c'est vrai, le vieux Marx n'avait pas tort, est-ce qu'il avait tort sur un autre plan. Si le capitalisme avait été laissé à lui-même, il se serait effondré 1000 fois, enfin 100 fois. Il y aurait eu une crise de surproduction tous les ans. Pourquoi il ne s'est pas effondré ? Parce que les travailleurs ont lutté. Ils ont imposé des augmentations de salaire. Donc ils ont créé des énormes marchés de consommation interne. Ils ont imposé des réductions du temps de travail. Ça a absorbé tout le chômage technologique. Donc, il y a eu ce retour du libéralisme. Et moi, je suis sûr que si ça continue comme ça, enfin, je suis sûr, on ne peut jamais être sûr en histoire, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je ne vois pas comment l'Europe, en tout cas, pourra sortir de cette crise dans laquelle elle est. Or, les libéraux viennent et disent il faut faire confiance au marché, etc., etc. Mais enfin, ce que disent maintenant les néolibéraux, c'est les économistes académiques eux-mêmes qui l'ont réfuté pendant les années 30. Ils ont montré qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la société capitaliste. Ce n'étaient pas des révolutionnaires, ce n'étaient pas des marxistes. Ils ont montré aussi que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, comme quoi il garantit une allocation, la meilleure allocation possible des ressources, une distribution du revenu la plus équitable possible, c'est des foutaises. Tout ça, ça a été démontré. Ça n'a pas été réfuté. Mais il y a eu une grande offensive économico-politique des couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par le nom de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs, qui a dit « Bon, vous avez assez rigolé, maintenant on va vous licencier, on va dégraisser l'industrie, hein, à éliminer la mauvaise graisse, comme dit M. Juppé. Bon, et puis vous verrez que le marché à la longue vous garantit le bien-être. »
Pourquoi pas l'opposition à ce libéralisme ?
Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Bon, on a parlé, il y a une sorte de terrorisme, pratiquement, de la pensée unique, comme on dit, la pensée unique, c'est-à-dire cette non-pensée. Elle étudie quand même, c'est la première pensée qui est une non-pensée intégrale, n'est-ce pas ? Pensée unique, libérale. Bon, personne n'ose s'opposer. Qu'est-ce que c'était l'idéologie libérale à sa grande époque ?
1850 ?
Oui, c'est ça, 1850. C'était quand même une grande idéologie. Parce qu'on croyait au progrès. Ces libéraux-là, ils pensaient que, par exemple, disons John Stuart Mill, ils pensaient qu'avec le progrès, il y aurait à la fois une élévation du bien-être économique.
Enrichissez-vous.
Mais même quand on ne s'enrichissait pas, comme dans les classes dominées, disons, exploitées, on allait avoir précisément moins de travail, des travaux moins pénibles, on serait moins abrutis par l'industrie. C'était le grand thème de l'époque. Constant dit les ouvriers ne peuvent pas voter parce qu'ils sont abrutis par l'industrie. Il le dit carrément, Benjamin Constant. Les gens étaient honnêtes à l'époque. Donc il faut un suffrage censitaire. Bon, alors après, on a dit, bon, non, parce que le temps de travail diminue, parce qu'il y a l'alphabétisation, il y a l'éducation, il y a des espèces